Luc, j'ai jeté un œil sur la rencontre Legault-Champagne.
Oui.
C'est quel Champagne?
Oui, mais Louis-Philippe Champagne, le
ministre. Non.
Oui.
Non, pas Louis-Philippe. Dominique Champagne, celui qui a fait signer le pacte à 400
pacte.
Artistes.
Ah oui, oui.
Il a eu droit à une rencontre avec François Legault, lui, un matin.
400 têtus de subvention.
Ah! Il a eu droit à une rencontre, puis là, j'ai hâte de voir si François Legault a signé le pacte.
Mange plus de steak, François. Finis le steak. Fais disparaître ton chat et ton chien aussi, là, parce qu'eux autres aussi, c'est des pollueurs.
Ils sont en train de rénover le restaurant parlementaire. Terminé!
Terminé!
Bon. Je voulais que tu me parles d'un événement important, historique. On parle beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a encore des survivants de la Deuxième Guerre mondiale.
Très peu.
De la Deuxième, quand même, là.
Il en reste très, très peu. Écoute, elle est terminée, la deuxième, depuis à peu près 75 ans, là, ouais. 73 ans, quelque chose comme ça. Alors, ça veut dire que si tu avais 20 ans, t'en as 93.
Oui, oui. Ceux qui l'ont combattu, qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, t'as raison, il y en a peu, mais il reste encore des enfants qui l'ont vécu, etc.
Oui, mais c'est rare.
Les souvenirs sont... Mais c'est documenté abondamment quand même.
Oui.
Tandis que la Première Guerre mondiale, celle dont on va célébrer l'armistice le 11 novembre...
Commémorée, je dirais.
Commémorée.
Oui.
Ben, célébrer,
on peut, oui, c'est
célébrer
vrai,
une armistice, c'est quand même pas pire. C'est pas célébrer la guerre, là. C'est célébrer la fin de la guerre.
Je comprends.
L'armistice qu'on va souligner, tiens, on va être plus prudent, souligner le 11 novembre, c'est celle de la Première Guerre mondiale.
Oui.
Et là, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y a aucun survivant de la Première Guerre mondiale. Elle s'est terminée en 1918. Donc, il reste peut-être encore quelques nourrissons qui étaient vivants à la fin de la guerre, mais disons qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de souvenir humain de la Première Guerre mondiale.
Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Et pourtant, c'est un moment extrêmement important. Puis l'autre jour, avec des collègues, il y en a qui me demandaient, qui sont plus jeunes que moi, là, qui me demandaient, c'était quoi la Première Guerre mondiale? Pourquoi on s'est chicané à la Première Guerre mondiale? Moi, je me rappelle de l'assassinat de l'archiduc machin chose à Sarajevo, qui a été le déclencheur. Mais c'était quoi la Première Guerre mondiale, professeur Lavoie?
La Première Guerre mondiale, c'était l'aboutissement d'un réarmement, d'une course aux armements et d'un nationalisme extrêmement exacerbé à l'échelle de l'Europe. Vous aviez l'Allemagne qui voulait se bâtir un empire colonial qui serait comparable à celui de la France ou à celui de l'Angleterre. Vous aviez la France qui voulait se venger pour son amère défaite de 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine. Vous aviez la Russie du tsar qui voulait être une puissance européenne. Alors, il s'est noué vers la fin du 19e siècle toute une série d'alliances militaires et diplomatiques formelles qui a fait en sorte que lorsque l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse le 28 juin 1914, cet assassinat donc a été perçu par l'Empire austro-hongrois comme un geste d'une incroyable hostilité. Et c'est la Serbie, c'était un nationaliste serbe qui était l'auteur du crime. Alors, ils ont décidé d'imposer à la Serbie une série de conditions qui, en fait, ne pouvaient pas être respectées par un pays souverain. Et soudainement, l'Empire austro-hongrois a déclenché la guerre contre la Serbie. Et immédiatement, le jeu des dominos s'est enclenché.
Des alliances.
Des alliances. Donc, les Allemands étaient alliés de l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie, après avoir frappé la Serbie, a frappé la Russie comme mesure défensive. Pendant ce temps-là, les Allemands, eux autres, ont dit, les Français vont venir s'en mêler, j'en suis sûr, parce qu'ils ont une alliance avec la Russie, alors on va aller vers la France. Et cette guerre est devenue une boucherie sans nom. À bien des égards, pire que la Deuxième Guerre mondiale, pour toutes sortes de raisons.
Est-ce que, à l'origine de la guerre, il n'y a pas aussi beaucoup le fait que l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne, qui étaient son allié, sont enclavés et cherchent à pouvoir sortir vers des ports, vers la mer, pour pouvoir exporter leurs affaires, prendre de l'expansion?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, justement, à la veille de la guerre, le libre-échange était la règle qui avait cours en Europe. Il y a des gens qui mettaient des pressions. Le nationalisme met toujours de la pression contre le libre-échange. Mais non, je ne pense pas que c'était ça le cas du tout. Mais pour revenir à la Première Guerre mondiale, écoutez, C'était la première fois qu'on avait une guerre complètement mécanisée. C'est pendant la Première Guerre mondiale qu'on a vu apparaître les mitraillettes.
On a vu
apparaître les chars d'assaut. On a vu apparaître les montgolfières, puis ensuite les chars d'assaut. On a vu apparaître les gaz, les fameux gaz mortels.
Les premiers avions, non?
Les premiers avions, effectivement, je l'avais mentionné. On a vu apparaître les premiers sous-marins. Donc, la guerre est devenue quelque chose d'industriel, en quelque sorte. C'était celui qui allait fabriquer le plus de chars d'assaut, et dans ce cas-là, c'est la France, qui allait gagner la guerre. Ouais. Mais cette guerre, moi, j'ai visité tous les sites du nord de la France, là, où cette guerre s'est déroulée. C'était invraisemblable. Il y avait des tranchées. Il y avait 600 kilomètres de tranchées. D'un côté, les Allemands, puis de l'autre côté, les Français et leurs alliés, c'est-à-dire les Britanniques, puis nous, les Canadiens. Et puis, il y avait des ordres d'assaut qui étaient donnés, puis les soldats se mettaient à courir, puis se faisaient faucher tous. Moi, il y a un site que si jamais vous allez dans le nord de la France, il faut aller voir, parce que ça fait comprendre l'incroyable horreur, la cruauté de cette guerre-là. C'est le site de Beaumont-Hamel. À cette époque, Terre-Neuve était... C'est dans le Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais. Terre-Neuve était une sorte de semi-autonomie par rapport à l'Angleterre, mais faisait pas partie du Canada. Et il y avait un régiment de Terre-Neuve qui s'appelait le Royal Newfoundland Regiment, qui, lors de l'offensive de la Somme, ne j'irai pas dans tous les détails de ça, a été lancé à l'assaut et a été totalement fauché par les Allemands qui les attendaient. Ça avait été une belle démonstration de l'incroyable incompétence de l'état-major britannique. L'armée britannique, à cause de ses vieilles traditions, était dirigée pas par des bons soldats, mais par des aristocrates qui étaient là parce que ça faisait bien dans la famille d'avoir un membre des forces armées. Alors, ils avaient calculé leur attaque. C'était une pente en descendant. Les Allemands étaient en bas. Alors, normalement, là, tu fais pas d'attaque dans ces endroits comme ça. Les Allemands étaient en bas, puis il y avait des mitraillettes qui étaient derrière les buissons. Mmh. Et ils avaient imaginé qu'ils allaient bâtir une bombe énorme qui allait être posée là, devant où les Allemands étaient situés, et que là, simultanément, ils allaient faire sauter la bombe, aveuglant ainsi les Allemands, puis là, les troupes partiraient à courir. Mmh. Problème. La bombe a explosé environ 2 minutes avant que les troupes soient en position. Alors, quand la bombe a explosé, le temps que se crée ce nuage de fumée, il s'est dissipé quand les gars sont partis à l'attaque. Le régiment a été éliminé au complet. 780 quelques morts d'une shot. Alors ça, la Première Guerre mondiale, c'est aussi plusieurs faits historiques pour le Canada. Premièrement, c'est la première fois que
On s'est embarqué là-dedans, Luc?
Ben, on était parti de l'Empire britannique. Et étant parti de l'Empire britannique, quand l'Empire britannique s'en allait à la guerre, ses colonies y allaient aussi. Alors, la question n'a jamais été soulevée en ces termes-là. Mais ici, au Québec, ça a été la première fois qu'on a eu une unité de combat parlant français. C'était ce qui est maintenant le Royal 22e Régiment. À l'époque, il s'appelait le 22e Bataillon. C'est aussi l'époque de la crise de la conscription. Les Québécois francophones refusaient... Les Canadiens français, comme on les appelait à l'école, à l'époque, refusaient d'aller à la guerre au nom de l'Empire britannique. Alors, il y a eu des manifestations, dont une célèbre à Québec, où ils ont tiré dans le tas. Il y a eu un certain nombre de morts et certainement beaucoup de blessés. Ça a aussi été le moment où, pour la première fois, le Canada a combattu en tant que pays cette fameuse bataille de Vimy, où il y a un monument immensément impressionnant
qui vaut
la peine d'être vu.
Je l'ai vu et c'est extrêmement impressionnant.
Très impressionnant.
Tu vois, quand j'y avais été, il y avait une gang de jeunes écoliers qui riaient alentour, qui lisaient les noms. Les murs sont entièrement couverts des noms des gens qui sont morts.
Voilà.
OK, en tout petit caractère.
Ouais.
Les jeunes riaient en lisant les noms, ils les trouvaient drôles. Puis il y a une dame qui est passée à côté d'eux en disant « S'ils n'étaient pas morts, vous ne pourriez pas rire. »
Voilà. Alors, le Canada a combattu à Vimy strictement comme unité canadienne. Ils n'étaient pas intégrés dans une armée britannique comme ça avait été le cas jusque-là. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un moment où le Canada est devenu plus un pays que jamais.
D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la pointe de Vimy, là, l'endroit où se trouve, c'est une terre canadienne. C'est considéré comme le Canada.
Oui. Quand tu
ça
dessus,
a été donné par la France.
Canadien, ouais.
C'est ça.
Et ça vaut la peine d'aller visiter ce site-là. C'est aussi la Première Guerre mondiale, la fin d'un monde. Trois empires sont disparus complètement de la carte après la fin de la guerre. L'Empire austro-hongrois a cessé d'exister. L'Empire ottoman a cessé d'exister. L'Empire russe a cessé d'exister. C'est pendant la Première Guerre mondiale que les Russes ont cessé de combattre parce qu'il y a eu la Révolution d'octobre qui a amené Lénine et les communistes au pouvoir, ce qui est venu faciliter considérablement la tâche des Français. Et il y a eu aussi, pour la première fois, alors que c'était un pays qui vivait selon les principes de l'isolationnisme, on veut rien savoir des guerres européennes. En bout de ligne, en 1917, les Américains ont déployé des troupes. Elles sont pas entrées au combat avant 1918, mais à la fin de la guerre, quand il y a eu la poussée finale, l'armée américaine s'est mise dans la bataille. Et finalement, c'est une guerre qui a fait 10 millions de morts, 20 millions de blessés. Elle a engagé 60 millions de soldats. Et surtout, elle n'a été que le premier acte de ce qui a été la Deuxième Guerre mondiale. En d'autres mots, les historiennes, nos jours, considèrent que la Première et la Deuxième Guerre mondiale sont le prolongement l'une de l'autre. Parce qu'on dit que le traité de paix, qui s'appelle le traité de Versailles, qui a été signé en 1919, contenait les germes de ce qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ont voulu se venger. Enfin, tout était en place pour que la Deuxième Guerre mondiale se poursuive. Je pense même que les historiens, à partir de dans une cinquantaine d'années, vont plutôt regarder 1914 jusqu'à 1990, parce que c'est la même guerre qui se poursuit tout le temps. Elle prend fin en 1945 et on s'engage dans la guerre froide. La guerre froide, c'était pas rigolo non plus. Et le mur de Berlin est tombé en 1990. Donc, le cycle de renversement du monde, parce que c'était un renversement historique. Si vous êtes vraiment intéressé par la lecture de livres sur cette époque, il y a un livre qui est fabuleux et qui est le livre de Stefan Zweig, un très, très grand écrivain allemand de l'époque, enfin, autrichien. Et ça s'appelle « Le monde d'hier ». Le monde d'hier, ça vous montre exactement comment c'était, en se servant de la ville de Vienne comme repère, le monde d'avant la guerre, le monde de la guerre des classes, le monde où il y avait une espèce de gérontocratie qui dirigeait. Et autre fait marquant de la Première Guerre mondiale, je ne veux pas prolonger inutilement, c'est que vous aviez sur le trône d'Angleterre, sur le trône allemand, le Kaiser, et sur le trône russe, le Tsar...
Des cousins
germains. Des petits-fils de la reine Victoria. En fait, quand tu prenais des photos, et ils se connaissaient très bien, ils ont grandi ensemble. Dans l'été, ils prenaient leurs vacances ensemble. C'était les petits-fils favoris de la reine Victoria. Et les photos qui existent des trois ensemble, ils ont l'air de triplets identiques tellement... Et ils parlaient tous anglais. Et ils se sont fait une guerre sans merci. Le Kaiser allemand était un gars un peu dérangé entre les deux oreilles. Le roi d'Angleterre était un gars plutôt assez décadent, sur la balloune, pas mal tout le temps. Et le tsar de Russie était un faiblard. C'était quelqu'un qui était manipulé par son entourage. C'était un peu heureux.
C'est celui qui était assassiné au bout du compte par toute sa famille.
Par les révolutionnaires bolcheviques.
Il y a quelqu'un qui confirme ce que tu disais, là, l'émeute à Québec contre la conscription de la Première Guerre mondiale. Ça a eu lieu au coin de Saint-Joseph et Saint-Vallier. 14 morts. Il y a un monument historique à cet endroit-là.
Alors, faut pas penser que c'est pas important pour nous. C'est un moment historique extrêmement important pour nous comme pays, pour nous comme francophones, pour le monde entier, parce que c'était la fin d'un monde, le début d'un autre, mais le début tellement chaotique qu'il a fallu qu'on traverse également la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une boucherie immense, celle-là aussi, et qui a inclus l'Holocauste, parce qu'il faut savoir que dans la Première Guerre mondiale, il y a eu, pendant la guerre, un génocide du même type. Ce sont les Arméniens. Les Ottomans croyaient que les Arméniens travaillaient avec la Russie parce qu'ils étaient donc des traîtres, puis ils ont décidé de les éliminer parce qu'eux autres, l'Empire ottoman, étaient des alliés des Allemands.
D'où la grande diaspora des Arméniens qui se sont sauvés.
Oui, ils se sont sauvés. Mais ils ont toujours été un peuple de diaspora, mais néanmoins, ils en ont tué 1,5 million à peu près dans le massacre génocidaire des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. Donc, un moment charnière de notre histoire. C'est là qu'est née la première Société des Nations. C'est là qu'on retrouve tous les germes de ce qui a mené à la création de l'État d'Israël, ce qui a mené aux guerres du Moyen-Orient. Tout est là dans la Première Guerre mondiale.
Merci, prof Lavoie. On va savoir au moins de quoi on parle dimanche.